Voltaire, avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirvins. Voilà donc en France deux accusations de parricide pour cause de religion dans la même année, et deux familles juridiquement immolées par le fanatisme. Le même préjugé qui étendait Calas sur la roue à Toulouse traînait à la potence la famille entière de Sirvins dans une juridiction de la même province. Et le même défenseur de l'innocence, M. Élie de Beaumont, avocat au Parlement de Paris, qui a justifié les Calas, vient de justifier les Sirvins par un mémoire signé de plusieurs avocats, mémoire qui démontre que le jugement contre les Sirvins est encore plus absurde que l'arrêt contre les Calas. Voici en peu de mots le fait dont le récit servira d'instruction pour les étrangers qui n'auront pu lire encore le factum de l'éloquent M. de Beaumont. En 1761, dans le temps même que la famille protestante des Calas était dans les fers, accusée d'avoir assassiné Marc-Antoine Calas, qu'on supposait vouloir embrasser la religion catholique, il arriva qu'une fille du sieur Paul Sirvin, commissaire à Terrier du pays de Castres, fut présentée à l'évêque de Castres par une femme qui gouverne sa maison. L'évêque, apprenant que cette fille était d'une famille calviniste, la fait enfermer à Castres, dans une espèce de couvent qu'on appelle la maison des régentes. On instruit à coups de fouet cette jeune fille dans la religion catholique. On la meurtrit de coups. Elle devient folle, elle sort de sa prison, et quelque temps après, elle va se jeter dans un puits au milieu de la campagne, loin de la maison de son père, vers un village nommé Mazamet. Aussitôt, le juge du village raisonne ainsi. On va rouer à Toulouse Calas et brûler sa femme, qui sans doute ont pendu leur fils de peur qu'il n'allât à la messe. Je dois donc, à l'exemple de mes supérieurs, en faire autant des Sirvins, qui, sans doute, ont noyé leur fille pour la même cause. Il est vrai que je n'ai aucune preuve que le père, la mère et les deux sœurs de cette fille l'aient assassinée. Mais j'entends dire qu'il n'y a pas plus de preuves contre les Calas. Ainsi, je ne risque rien. Peut-être s'en serait trop pour un juge de village de rouer et de brûler. J'aurais au moins le plaisir de pendre toute une famille huguenote, et je serais payé de mes vacations sur leurs biens confisqués. Pour plus de sûreté, ce fanatique imbécile fait visiter le cadavre par un médecin aussi savant en physique que le juge l'est en jurisprudence. Médecin, tout étonné de ne point trouver l'estomac de la fille remplie d'eau, et ne sachant pas qu'il est impossible que l'eau entre dans un corps dont l'air ne peut sortir, conclut que la fille a été assommée et ensuite jetée dans le puits. Un dévot du voisinage assure que toutes les familles protestantes sont dans cet usage. Enfin, après bien des procédures aussi irrégulières que les raisonnements étaient absurdes, le juge décrète de prise de corps le père, la mère, les sœurs de la décédée. À cette nouvelle, Sirvin assemble ses amis. Tous sont certains de son innocence. Mais l'aventure des Calas remplissait toute la province de terreur. Il conseille à Sirvin de ne point s'exposer à la démence du fanatisme. Il fuit avec sa femme et ses filles. C'était dans une saison rigoureuse. Cette troupe d'infortunés est dans la nécessité de traverser à pied des montagnes couvertes de neige. Une des filles de Sirvin, mariée depuis un an, accouche sans secours dans le chemin, au milieu des glaces. Il faut que, toute mourante qu'elle est, elle emporte son enfant mourant dans ses bras. Enfin, Une des premières nouvelles que cette famille apprend quand elle est en lieu de sûreté, c'est que le père et la mère sont condamnés au dernier supplice et que les deux sœurs, déclarées également coupables, sont bannies à perpétuité, que leur bien est confisqué et qu'il ne leur reste plus rien au monde que l'opprobre et la misère. C'est ce qu'on peut voir plus au long dans le chef-d'œuvre de M. de Beaumont, avec les preuves complètes de la plus pure innocence et de la plus détestable injustice. La Providence, qui a permis que les premières tentatives qui ont produit la justification de Calas, mort sur la roue en Languedoc, vinssent du fond des montagnes et des déserts voisins de la Suisse, a voulu encore que la vengeance des Sirvins vint des mêmes solitudes. Les enfants de Calas s'y réfugièrent. La famille de Sirvin y chercha un asile dans le même temps. Les hommes compatissants et vraiment religieux, qui ont eu la consolation de servir ces deux familles infortunées, et qui les premiers ont respecté leur désastre et leur vertu, ne purent alors faire présenter des requêtes pour les Sirvins comme pour les Calas, parce que le procès criminel contre les Sirvins s'instruisit plus lentement et dura plus longtemps. Et puis comment une famille errante, à 400 milles de sa patrie, pouvait-elle recouvrer les pièces nécessaires à sa justification? Que pouvait un père accablé, une femme mourante, et qui en effet est morte de sa douleur, et deux filles aussi malheureuse que le père et la mère. Il fallait demander juridiquement la copie de leur procès. Des formes peut-être nécessaires, mais dont les faits et souvent d'opprimer l'innocent et le pauvre ne le permettaient pas. Les parents, intimidés, n'osaient même leur écrire. Tout ce que cette famille put apprendre dans un pays étranger, c'est qu'elle avait été condamnée au supplice dans sa patrie. Si on savait combien il a fallu de soins et de peines pour arracher enfin quelques preuves juridiques en leur faveur, on en serait effrayé. Par quelle fatalité est-il si aisé d'opprimer et si difficile de secourir? On a pu employer pour les Sirvins les mêmes formes de justice dont on s'est servi pour les Calas, parce que les Calas avaient été condamnés par un parlement, et que les Sirvins ne l'ont été que par des juges subalternes, dont la sentence ressortit à ce même parlement. Nous ne répéterons rien ici de ce qu'a dit l'éloquent et généreux M. de Beaumont. Mais, ayant considéré combien ces deux aventures sont étroitement unies à l'intérêt du genre humain, nous avons cru qu'il est du même intérêt d'attaquer dans sa source le fanatisme qui les a produits. Il ne s'agit que de deux familles obscures, mais quand la créature la plus ignorée meurt de la même contagion qui a longtemps désolé la terre, elle avertit le monde entier que ce poison subsiste encore. Tous les hommes doivent se tenir sur leur garde. Et, s'il est quelques médecins, ils doivent chercher les remèdes qui peuvent détruire les principes de la mortalité universelle. Il se peut encore que les formes de la jurisprudence ne permettent pas que la requête des Sirvins soit admise au Conseil du roi de France, mais elle l'est par le public. Ce juge de tous les juges a prononcé. C'est donc à lui que nous nous adressons. C'est d'après lui que nous allons parler. Exemple du fanatisme en général. Le genre humain a toujours été livré aux erreurs. Toutes n'ont pas été meurtrières. On a pu ignorer que notre globe tourne autour du soleil. On a pu croire aux diseurs de Bonaventure, aux revenants. On a pu croire que les oiseaux annoncent l'avenir, qu'on enchante les serpents, que l'on peut faire naître des animaux bigarrés en présentant au maire des objets diversement colorés. On a pu se persuader que, dans le décours de la lune, la moelle des os diminue, que les graines doivent pourrir pour germer, etc. Ces inepties, au moins, n'ont produit ni persécution, ni discorde, ni meurtre. Il est d'autres démences qui ont troublé la terre, d'autres folies qui l'ont inondée de sang. On ne sait point assez, par exemple, combien de misérables ont été livrés aux bourreaux par des juges ignorants qui les condamnèrent aux flammes tranquillement et sans scrupules sur une accusation de sorcellerie. Il n'y a point eu de tribunal dans l'Europe chrétienne qui ne se soit souillé très souvent par de tels assassinats juridiques pendant 15 siècles entiers. Et quand je dirais que parmi les chrétiens, il y a eu plus de 100 000 victimes de cette jurisprudence idiote et barbare, et que la plupart étaient des femmes et des filles innocentes, je ne dirais pas encore assez. Les bibliothèques sont remplies de livres concernant la prudence de la sorcellerie. Toutes les décisions de ces juges y sont fondées sur l'exemple des magiciens de Pharaon, de la pythonisse d'Endor, des possédés dont il est parlé dans l'Évangile, et des apôtres envoyés expressément pour chasser les diables des corps des possédés. Personne n'osait seulement alléguer par pour le genre humain, que Dieu a pu permettre autrefois les possessions et les sortilèges et ne les permettre plus aujourd'hui. Cette distinction aurait paru criminelle, on voulait absolument des victimes. Le christianisme fut toujours souillé de cette absurde barbarie. Tous les pères de l'Église crurent à la magie. Plus de 50 conciles prononcèrent anathème contre ceux qui faisaient entrer le diable dans le corps des hommes par la vertu de leurs paroles. L'erreur universelle était sacrée. Les hommes d'État, qui pouvaient détromper les peuples, n'y pensèrent pas. Ils étaient trop entraînés par le torrent des affaires. Ils craignaient le pouvoir du préjugé. Ils voyaient que ce fanatisme était né du sein de la religion même. Il n'osait frapper ce fils dénaturé de peur de blesser la mère. Ils aimèrent mieux s'exposer à être eux-mêmes les esclaves de l'erreur populaire que la combattre. Les princes, les rois, ont payé chèrement la faute qu'ils ont faite d'encourager la superstition du vulgaire. Ne fit-on pas croire au peuple de Paris que le roi Henri III employait les sortilèges dans ses dévotions? Et ne se servit-on pas longtemps d'opérations magiques pour lui ôter une malheureuse vie que le couteau d'un jacobin trancha plus sûrement que n'eût fait tout l'enfer évoqué par des conjurations? Des fourbes ne voulurent-ils pas conduire à Rome Marthe Brossier la possédée, pour accuser Henri IV au nom du diable de n'être pas bon catholique? Chaque année, dans ces temps à demi sauvages auxquels nous touchons, était marqué par de semblables aventures. Tout ce qui restait de la Ligue à Paris ne publia-t-il pas que le diable avait tordu le cou à la belle Gabrielle d'Estrées? On ne devrait pas, dit-on, reproduire aujourd'hui ces histoires si honteuses pour la nature humaine. Et moi, je dis qu'il en faut parler 1000 fois, qu'il faut les rendre sans cesse présentes à l'esprit des hommes. Il faut répéter que le malheureux prêtre Urbain Grandier fut condamné aux flammes par des juges ignorants et vendu à un ministre sanguinaire. L'innocence de Grandier était évidente, mais des religieuses assurait qu'il les avait ensorcelés, et c'en était assez. On oubliait Dieu pour ne parler que du diable. Il arrivait nécessairement que les prêtres, ayant fait un article de foi du commerce des hommes avec le diable, et les juges, regardant ce prétendu crime comme aussi réel et aussi commun que le larcin, il se trouva parmi nous plus de sorciers que de voleurs. Une mauvaise jurisprudence multiplie les crimes. Ce furent donc nos rituels et notre jurisprudence, fondée sur les décrets de Gratien, qui formèrent en effet des magiciens. Le peuple imbécile disait « Nos prêtres excommunient, exorcisent ceux qui ont fait des pactes avec le diable. Nos juges les font brûler. Il est donc très certain qu'on peut faire des marchés avec le diable. Or, si ces marchés sont secrets, si Belzébuth nous tient parole, nous serons enrichis en une seule nuit. Il ne nous en coûtera que d'aller au sabbat. La crainte d'être découvert ne doit pas l'emporter sur l'espérance des biens infinis que le diable peut nous faire. D'ailleurs, Belzébuth, plus puissant que nos juges, nous peut secourir contre eux. » Ainsi raisonnaient ces misérables. Et plus les juges fanatiques allumaient de bûchers, plus il se trouvait d'idiots qui les affrontaient. Mais il y avait encore plus d'accusateurs que de criminels. Une fille devenait-elle grosse sans que l'on connût son amant? C'était le diable qui lui avait fait un enfant. Quelques laboureurs s'étaient-ils procurés par leur travail une récolte plus abondante que celle de leurs voisins? C'est qu'ils étaient des sorciers. L'Inquisition les brûlait et vendait leurs biens à son profit. Le pape déléguait dans toute l'Allemagne et ailleurs des juges qui livraient les victimes aux bras séculiers, de sorte que les laïcs ne furent très longtemps que les archers et les bourreaux des prêtres. Il en est encore ainsi en Espagne et en Portugal. Plus une province était ignorante et grossière, plus l'empire du diable y était reconnu. Nous avons un recueil des arrêts rendus en Franche-Comté contre les sorciers, fait en 1607 par un grand juge de Saint-Claude nommé Boguet et approuvé par plusieurs évêques. On mettrait aujourd'hui dans l'hôpital des fous un homme qui écrirait un pareil ouvrage. Mais alors, tous les autres juges étaient aussi cruellement insensés que lui. Chaque province eut un pareil registre. Enfin, lorsque la philosophie a commencé à éclairer un peu les hommes, on a cessé de poursuivre les sorciers et ils ont disparu de la terre. Des parricides. J'ose dire il en est ainsi des parricides. Que les juges du Languedoc cessent de croire légèrement que tout père de famille protestant commence par assassiner ses enfants dès qu'ils soupçonnent qu'ils ont quelque penchant pour la créance romaine. Et alors, il n'y aura plus de procès de parricide. Ce crime est encore plus rare, en effet, que celui de faire un pacte avec le diable. Car il se peut que des femmes imbéciles, à qui leur curé aura fait accroire dans son prône qu'on peut aller coucher avec un bouc au sabbat, conçoivent par ce prône même l'envie d'aller au sabbat et d'y coucher avec un bouc. Il est dans la nature que, s'étant frottées d'onguent, elles rêvent pendant la nuit qu'elles ont eu les faveurs du diable. Mais il n'est pas dans la nature que les pères et les mères égorgent leurs enfants pour plaire à Dieu. Cependant, si l'on continuait à soupçonner qu'il est ordinaire aux protestants d'assassiner leurs enfants, de peur qu'ils ne se fassent catholiques, on leur rendrait enfin la religion catholique si odieuse qu'on pourrait venir à bout d'étouffer la nature dans quelques malheureux pères fanatiques et leur donner la tentation de commettre le crime qu'on suppose si légèrement. L'auteur italien rapporte qu'en Calabre, un moine s'avisa d'aller prêcher de village en village contre la bestialité et en fit des peintures si vives il se trouva, 3 mois après, plus de 50 femmes accusées de cette horreur. La tolérance peut seule rendre la société supportable. C'est une passion bien terrible que cet orgueil qui veut forcer les hommes à penser comme nous. Mais n'est-ce pas une extrême folie de croire les ramener à nos dogmes en les révoltant continuellement par les calomnies les plus atroces, en les persécutant, en les traînant aux galères, à la potence, sur la roue et dans les flammes? Un prêtre irlandais a écrit depuis peu, dans une brochure à la vérité ignorée, mais enfin il a écrit, et il a entendu dire à d'autres, que nous venons 100 ans trop tard pour élever nos voix contre l'intolérance, que la barbarie a fait place à la douceur, qu'il n'est plus temps de se plaindre. Je répondrai à ceux qui parlent ainsi, voyez ce qui se passe sous vos yeux, et si vous avez un cœur humain, vous joindrez votre compassion à la nôtre. On a pendu en France 8 malheureux prédicants depuis l'année 1745. Les billets de confession ont excité 1000 troubles. Et enfin, un malheureux fanatique de la Ligue du peuple, ayant assassiné son roi en 1757, a répondu devant le Parlement à son premier interrogatoire qu'il avait commis ce parricide par principe de religion, et il a ajouté ces mots funestes. Qui n'est bon que pour soi n'est bon à rien. De qui les tenait-il? Qui faisait parler ainsi un cuistre de collège, un misérable valet? Il a soutenu à la torture non seulement que son assassinat était une œuvre méritoire, mais qu'il l'avait entendu dire à tous les prêtres dans la grande salle du palais où l'on rend la justice. La contagion du fanatisme subsiste donc encore. Ce poison est si peu détruit qu'un prêtre du pays des Calas et des Sirvins a fait imprimer il y a quelques années l'apologie de la Saint-Barthélemy. Un autre a publié la justification des meurtriers du curé Urbain Grandier. Et quand le traité, aussi utile qu'humain, de la tolérance a paru en France, on n'a pas osé en permettre le débit publiquement. Ce traité a fait à la vérité quelque bien. Il a dissipé quelques préjugés. Il a inspiré de l'horreur pour les persécutions et pour le fanatisme. Mais dans ce tableau des barbaries religieuses, l'auteur a omis bien des traits qui aurait rendu le tableau plus terrible et l'instruction plus frappante. On a reproché à l'auteur d'avoir été un peu trop loin lorsque, pour montrer combien la persécution est détestable et insensée, il introduit un parent de Ravaillac proposant au jésuite Le Tellier d'empoisonner tous les jansénistes. Cette fiction pourrait en effet paraître trop outré à quiconque ne sait pas jusqu'où peut aller la rage folle du fanatisme. On sera bien surpris quand on apprendra que ce qui est une fiction dans le traité de la tolérance est une vérité historique. On voit en effet, dans l'histoire de la réformation de Suisse, que pour prévenir le grand changement qui était près d'éclater, des prêtres subornèrent à Genève, en 1536, une servante pour empoisonner 3 principaux auteurs de la réforme. Et que le poison n'ayant pas été assez fort, ils en mirent un plus violent dans le pain et le vin de la communion publique, afin d'exterminer en un seul matin tous les nouveaux réformés et de faire triompher l'Église de Dieu. L'auteur du traité de la tolérance n'a point parlé des supplices horribles dans lesquels on a fait périr tant de malheureux aux vallées du Piémont. Il a passé sous silence le massacre de 600 habitants de la Valteline, hommes, femmes, enfants, que les catholiques égorgèrent un dimanche, au mois de septembre 1620. Je ne dirai pas que ce fut avec l'aveu et avec le secours de l'archevêque de Milan, Charles Borromée, dont on a fait un saint. Quelques écrivains passionnés ont assuré ce fait, que je suis très loin de croire. Mais je dis qu'il n'y a guère dans l'Europe de ville ou de bourg où le sang n'est coulé pour des querelles de religion. Je dis que l'espèce humaine en a sensiblement diminué, parce qu'on massacrait les femmes et les filles aussi bien que les hommes. Je dis que l'Europe serait plus peuplée d'un tiers s'il n'y avait point eu d'arguments théologiques. Je dis enfin que, loin d'oublier ces temps abominables, il faut les remettre fréquemment sous nos yeux pour en inspirer une horreur éternelle, et que c'est à notre siècle à faire amende honorable par la tolérance pour ce long amas de crimes que l'intolérance a fait commettre pendant 16 siècles de barbarie. Qu'on ne dise donc point qu'il ne reste plus de traces du fanatisme affreux de l'intolérantisme. Elles sont encore partout. Elles sont dans les pays mêmes qui passent pour les plus humains. Les prédicants, luthériens et calvinistes, s'ils étaient les maîtres, serait peut-être aussi impitoyable, aussi dur, aussi insolent qu'ils reprochent à leurs antagonistes de l'être. La loi barbare qu'aucun catholique ne peut demeurer plus de 3 jours dans certains pays protestants n'est point encore révoquée. Un Italien, un Français, un Autrichien ne peut posséder une maison, un arpent de terre dans leur territoire, tandis qu'au moins, on permet en France qu'un citoyen inconnu de Genève ou de Schaffhouse achète des terres seigneuriales. Si un Français, au contraire, voulait acheter un domaine dans les républiques protestantes dont je parle, et si le gouvernement fermait sagement les yeux, il y a encore des âmes debout qui s'élèveraient contre cette humanité tolérante. De ceux qui fomentent principalement l'intolérance, la haine et l'injustice. Un des grands aliments de l'intolérance et de la haine des citoyens contre leurs compatriotes est ce malheureux usage de perpétuer les divisions par des monuments et par des fêtes. Telle est la procession annuelle de Toulouse, dans laquelle on remercie Dieu solennellement de 4000 meurtres. Elle a été défendue par plusieurs ordonnances de nos rois et n'a point encore été abolie. On insulte dévotement chaque année la religion et le trône par cette cérémonie barbare. L'insulte redouble à la fin du siècle avec la solennité. Ce sont là les jeux séculaires de Toulouse. Elle demande alors une indulgence plénière au pape en faveur de la procession. Elle a besoin sans doute d'indulgence. Mais on n'en mérite pas quand on éternise le fanatisme. La dernière cérémonie séculaire se fit en 1762, au temps même où l'on fit expirer Calas sur la roue. On remerciait Dieu d'un côté, et de l'autre on massacrait l'innocence. La postérité pourra-t-elle croire à quel excès se porte de nos jours la superstition dans cette malheureuse solennité? D'abord, les savetiers, en habit de cérémonie, portent la tête du premier évêque de Toulouse, prince du Péloponnèse, qui siégeait incontestablement à Toulouse avant la mort de Jésus-Christ. Ensuite, viennent les couvreurs, chargés des os de tous les enfants qu'Hérode fit égorger il y a 1766 ans. Et quoique ces enfants aient été enterrés à Éphèse, comme les 11 000 vierges à Cologne, au vu et su de tout le monde, ils n'en sont pas moins enchâssés à Toulouse. Les fripiers étalent un morceau de la robe de la Vierge. Les reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul sont portés par les frères tailleurs. 30 corps morts paraissent ensuite dans cette marche. plût à Dieu qu'on sentât à ces spectacles. La piété trompée n'en est pas moins piété. Le sot peuple peut à toute force remplir ses devoirs, surtout quand la police est exacte. Quoiqu'il porte en procession les os de 14 000 enfants tués par l'ordre censé d'Hérode dans Bethléem. Mais tant de corps morts, qui ne servent en ce jour qu'à renouveler la mémoire de 4 000 citoyens égorgés en 1562, ne peuvent faire, sur les cerveaux des vivants, qu'une impression funeste. Ajoutez que les pénitents, blancs et noirs, marchant à cette procession, avec un masque de drap sur le visage, ressemblent à des revenants qui augmentent l'horreur de cette fête lugubre. On en sort la tête remplie de fantômes, le cœur saisi de l'esprit de fanatisme et rempli de fiel contre ses frères que cette procession outrage. C'est ainsi qu'on sortait autrefois de la chambre des méditations chez les Jésuites. L'imagination s'enflamme à ces objets. L'âme devient atroce et implacable. Malheureux humains, ayez des fêtes qui adoucissent les mœurs, qui portent à la clémence, à la douceur, à la charité. Célébrez la journée de Fontenoy, où tous les ennemis blessés furent portés avec les nôtres dans les mêmes maisons, dans les mêmes hôpitaux, où ils furent traités et soignés avec le même empressement. Célébrez la générosité des Anglais qui firent une souscription en faveur de nos prisonniers dans la dernière guerre. Célébrez les bienfaits dont Louis XV a comblé la famille Calas, et que cette fête soit une éternelle réparation de l'injustice. Célébrez les institutions bienfaisantes et utiles des Invalides, des Demoiselles de Saint-Cyr, des gentilshommes de l'école militaire. Que vos fêtes soient les commémorations des actions vertueuses et non de la haine, de la discorde, de l'abrutissement, du meurtre et du carnage. Causes étranges de l'intolérance. Je suppose qu'on raconte toutes ces choses à un Chinois, à un Indien de bon sens, et qu'il ait la patience de les écouter. Je suppose qu'il veuille s'informer pourquoi on a tant persécuté en Europe, pourquoi des haines si invétérées éclatent encore, d'où sont partis tant d'anathèmes réciproques, tant d'instructions pastorales qui ne sont que des libelles diffamatoires, tant de lettres de cachet qui, sous Louis XIV, ont rempli les prisons et les déserts. Il faudra bien qu'on lui réponde. On lui dira donc, en rougissant, les uns croient à la grâce versatile, les autres à la grâce efficace. On dit dans Avignon que Jésus est mort pour tous, et dans un faubourg de Paris, il est mort pour plusieurs. Là, on assure que le mariage est le signe visible d'une chose invisible. Ici, on prétend qu'il n'y a rien d'invisible dans cette union. Il y a des villes où les apparences de la matière peuvent subsister sans que la matière apparente existe, et où un corps peut être en 1000 endroits différents. Il y a d'autres villes où l'on croit la matière pénétrable. Et pour comble enfin, il y a dans ces villes de grands édifices où l'on enseigne une chose et d'autres édifices où il faut croire une chose toute contraire. On a une différente manière d'argumenter selon qu'on porte une robe blanche, grise ou noire, ou selon qu'on est affublé d'un manteau ou d'une chasuble. Ce sont là les raisons de cette intolérance réciproque qui rend éternellement ennemis les sujets d'un même État. Et, par un renversement d'esprit inconcevable, on laisse subsister ces semences de discorde. Certainement, l'Indien ou le Chinois ne pourra comprendre qu'on se soit persécuté, égorgé, si longtemps pour de telles raisons. Il pensera d'abord que cet horrible acharnement ne peut avoir d'autre source que dans des principes de morale entièrement opposés. Il sera bien surpris quand il apprendra que nous avons tous la même morale, la même qu'on professa de tout temps à la Chine et dans les Indes, la même qui a gouverné tous les peuples. Il devra nous plaindre alors et nous mépriser, en voyant que cette morale uniforme et éternelle n'a pu ni nous réunir, ni nous adoucir, et que les subtilités scolastiques ont fait des monstres de ceux qui, en s'attachant simplement à cette même morale, auraient été des frères. Tout ce que je dis ici, à l'occasion des Calas et des Sirvins, on aurait dû le dire pendant 1500 années, depuis les querelles d'Athanase et d'Arius, que l'empereur Constantin traita d'abord d'insensé, jusqu'à celle du jésuite Le Tellier, et du janséniste Quesnel, et des billets de confession. Non, il n'y a pas une seule dispute théologique qui n'ait eu des suites funestes. On en compilerait 20 volumes. Mais je veux finir par celle des Cordeliers et des Jacobins, qui prépara la réformation de la puissante République de Berne. C'est de 1000 histoires de cette nature la plus horrible, la plus sacrilège et en même temps la plus avérée. Digression sur les sacrilèges qui amenèrent la réformation de Berne. On sait assez que les Cordeliers ou franciscains et les Jacobins ou dominicains se détestaient réciproquement depuis leur fondation. Ils étaient divisés sur plusieurs points de théologie autant que sur l'intérêt de leur besace. Leur principale querelle roulait sur l'état de Marie avant qu'elle fût née. Les frères Cordeliers assuraient que Marie n'avait pas péché dans le ventre de sa mère. Les frères Jacobins le niaient. Il n'y eut jamais peut-être de question plus ridicule. Et ce fut cela même qui rendit ces deux ordres de moines irréconciliables. Un Cordelier, prêchant à Francfort en 1503 sur l'Immaculée Conception de Marie, vit entrer dans l'église un dominicain nommé Vigan. « Sainte Vierge, s'écria-t-il, je te remercie de n'avoir pas permis que je fusse d'une secte qui te déshonore, toi et ton fils. » Vigan lui répondit qu'il en avait menti. Le Cordelier descendit de sa chaire, un crucifix de fer à la main. Il en frappa si rudement le Jacobin Vigan qu'il le laissa presque mort sur la place, après quoi il acheva son sermon sur la Vierge. Les Jacobins s'assemblèrent en chapitre pour se venger, et, dans l'espérance d'humilier davantage les Cordeliers, ils résolurent de faire des miracles. Après plusieurs essais infructueux, ils trouvèrent enfin une occasion favorable dans Berne. Un de leurs moines confessait un jeune tailleur imbécile nommé Jetzer, très dévot d'ailleurs à la Vierge Marie et à Sainte Barbe. Cet idiot leur parut un excellent sujet à miracle. Son confesseur lui persuada que la Vierge et Sainte Barbe lui ordonnaient expressément de se faire jacobin et de donner tout son argent au couvent. Jetzer obéit, prit l'habit. Quand on eut bien éprouvé sa vocation, 4 jacobins, dont les noms sont au procès, se déguisèrent plusieurs fois comme ils purent, l'un en ange, l'autre en âme du purgatoire, un troisième en Vierge Marie et le quatrième en Sainte Barbe. Le résultat de toutes ces apparitions, qui seraient trop ennuyeuses à décrire, fut qu'enfin la Vierge lui avoua qu'elle était née dans le péché originel. Elle aurait été damnée si son fils, qui n'était pas encore au monde, n'avait pas eu l'intention de la régénérer immédiatement après qu'elle fut née. que les cordeliers étaient des impies qui offensaient grièvement son fils en prétendant que sa mère avait été conçue sans péché mortel et qu'elle le chargeait d'annoncer cette nouvelle à tous les serviteurs de Dieu et de Marie d'Amberg. Jetzer n'y manqua pas. Marie, pour le remercier, lui apparut encore accompagnée de deux anges robustes et vigoureux. Elle lui dit qu'elle venait lui imprimer les saints stigmates de son fils pour preuve de sa mission et pour sa récompense. Les deux anges le lièrent. La Vierge lui enfonça des clous dans les pieds et dans les mains. Le lendemain, on exposa publiquement sur l'autel frère Jetzer, tout sanglant des faveurs célestes qu'il avait reçues. Les dévotes vinrent en foule baiser ses plaies. Il fit autant de miracles qu'il voulut, mais les apparitions continuant toujours, Jetzer reconnut enfin la voix du sous-prieur sous le masque qui le cachait. Il cria, il menaça de tout révéler, il suivit le sous-prieur jusque dans sa cellule. Il y trouva son confesseur, Sainte Barbe, et les deux anges qui buvaient avec des filles. Les moines découverts n'avaient plus d'autre parti à prendre que celui de l'empoisonner. Ils saupoudrèrent une hostie de sublimé corrosif. Jetzer la trouva d'un si mauvais goût qu'il ne put l'avaler. Ils s'enfuirent de l'église en criant aux empoisonneurs et aux sacrilèges. Le procès dura 2 ans. Il fallut plaider devant l'évêque de Lausanne, car il n'était pas permis alors à des séculiers d'oser juger des moines. L'évêque prit le parti des dominicains. Il jugea que les apparitions étaient véritables et que le pauvre Jetzer était un imposteur. Il eut même la barbarie de faire mettre cet innocent à la torture. Mais les dominicains, ayant ensuite eu l'imprudence de le dégrader et de lui ôter l'habit d'un ordre si saint, Jetzer étant redevenu séculier par cette manœuvre, le conseil de Berne s'assura de sa personne, reçut ses dépositions et vérifia ce long tissu de crime. Il fallut faire venir des juges ecclésiastiques de Rome. Il les força par l'évidence de la vérité à livrer les coupables aux bras séculiers. Ils furent brûlés le 31 mai 1509 à la porte de Marcilly. Tout le procès est encore dans les archives de Berne et il a été imprimé plusieurs fois. Des suites de l'esprit de parti et du fanatisme. Si une simple dispute de moines a pu produire de si étranges abominations, ne soyons point étonnés de la foule de crimes que l'esprit de parti a fait naître entre tant de sectes rivales. Craignons toujours les excès où conduit le fanatisme. Qu'on laisse ce monstre en liberté, qu'on cesse de couper ses griffes et de briser ses dents. Que la raison, si souvent persécutée, se taise. On verra les mêmes horreurs qu'au siècle passé. Le germe subsiste. Si vous ne l'étouffez pas, il couvrira la terre. Jugez donc enfin, lecteur sage, lequel vaut le mieux, d'adorer Dieu avec simplicité, de remplir tous les devoirs de la société sans agiter des questions aussi funestes qu'incompréhensibles, et d'être juste et bienfaisant, sans être d'aucune faction, que de vous livrer à des opinions fantastiques qui conduisent les âmes faibles à un enthousiasme destructeur et aux plus détestables atrocités. Je ne crois point m'être écarté de mon sujet en rapportant tous ces exemples, en recommandant aux hommes la religion qui les unit et non pas celle qui les divise. La religion qui n'est d'aucun parti, qui forme des citoyens vertueux et non d'imbéciles scolastiques. La religion qui tolère et non celle qui persécute. La religion qui dit que toute la loi consiste à aimer Dieu et son prochain et non celle qui fait de Dieu un tyran et de son prochain un amas de victimes. Ne faisons point ressembler la religion à ces nymphes de la fable qui s'accouplèrent avec des animaux et qui enfantèrent des monstres. Ce sont les moines surtout qui ont perverti les hommes. Le sage et profond Leibniz l'a prouvé évidemment. Il a fait voir que le Xe siècle, qu'on appelle le siècle de fer, était bien moins barbare que le XIIIe et les suivants, où naquirent ces multitudes de gueux qui firent vœu de vivre aux dépens des laïcs et de tourmenter les laïcs. Ennemis du genre humain, ennemis les uns des autres et d'eux-mêmes, incapables de connaître les douceurs de la société, il fallait bien qu'ils la haïssent. Ils déploient entre eux une dureté dont chacun d'eux gémit et que chacun d'eux redouble. Tout moine secoue la chaîne qu'il s'est donnée, en frappe son confrère et en est frappé à son tour. Malheureux dans leur sacré repère, ils voudraient rendre malheureux les autres hommes. Leurs cloîtres sont le séjour du repentir, de la discorde et de la haine. Leur juridiction secrète est celle de Maroc et d'Alger. Ils enterrent pour la vie dans des cachots ceux de leurs frères qui peuvent les accuser. Enfin, ils ont inventé l'Inquisition. Je sais que, dans la multitude de ces misérables qui affectent la moitié de l'Europe, et que la séduction, l'ignorance, la pauvreté ont précipité dans des cloîtres à l'âge de 15 ans, il s'est trouvé des hommes d'un rare mérite qui se sont élevés au-dessus de leur état et qui ont rendu service à leur patrie. Mais j'ose assurer que tous les grands hommes dont le mérite a percé du cloître dans le monde ont tous été persécutés par leurs confrères. Tout savant, tout homme de génie y essuie plus de dégoût, plus de traits de l'envie qu'il n'en aurait éprouvé dans le monde. L'ignorant et le fanatique qui soutiennent les intérêts de la besace y ont plus de considération que n'en aurait le plus grand génie de l'Europe. L'horreur qui règne dans ces cavernes paraît rarement aux yeux des séculiers, et quand elle éclate, c'est par des crimes qui étonnent. On a vu, au mois de mai de cette année, 8 de ces malheureux qu'on nomme capucins, accusés d'avoir égorgé leurs supérieurs dans Paris. Cependant, par une fatalité étrange, des pères, des mères, des filles disent à genoux tous leurs secrets à ces hommes, le rebut de la nature, qui, tout souillés de crimes, se vantent de remettre les péchés des hommes au nom du Dieu qu'ils font de leurs propres mains. Combien de fois ont-ils inspiré à ceux qu'ils appellent leurs pénitents toute l'atrocité de leur caractère? C'est par eux que sont fomentées principalement ces haines religieuses qui rendent la vie si amère. Les juges qui ont condamné les Calas et les Sirvins se confessent à des moines. Ils ont donné 2 moines à Calas pour l'accompagner au supplice. Ces 2 hommes, moins barbares que leurs confrères, avouèrent d'abord que Calas, en expirant sur la roue, avait invoqué Dieu avec la résignation de l'innocence. Mais quand nous leur avons demandé une attestation de ce fait, ils l'ont refusé. Ils ont craint d'être punis par leurs supérieurs pour avoir dit la vérité. Enfin, qui le croirait? Après le jugement solennel rendu en faveur des Calas, il s'est trouvé un jésuite irlandais qui, dans la plus insipide des brochures, a osé dire que les défenseurs des Calas et les maîtres des requêtes qui ont rendu justice à leur innocence étaient des ennemis de la religion. Les catholiques répondent à tous ces reproches que les protestants en méritent d'aussi violents. Les meurtres de Servet et de Barnevelt du style valent bien ceux du conseiller Dubourg. On peut opposer la mort de Charles Ier à celle de Henri III. les sombres fureurs des presbytériens d'Angleterre, la rage des cannibales des Cévennes, ont égalé les horreurs de la Saint-Barthélemy. Comparez les sectes, comparez les temps, vous trouverez partout, depuis 1600 années, une mesure à peu près égale d'absurdités et d'horreurs. Partout, des races d'aveugles se déchirant les uns les autres dans la nuit qui les environne. Quel livre de controverse n'a pas été écrit avec le fiel? Et quel dogme théologique n'a pas fait répandre du sang? C'était la suite nécessaire de ces terribles paroles. Quiconque n'écoute pas l'Église soit regardé comme un païen et un publicain. Chaque parti prétendait être l'Église. Chaque parti a donc dit toujours « Nous abhorrons les commis de la douane. Il nous est enjoint de traiter quiconque n'est pas de notre avis, comme les contrebandiers traitent les commis de la douane quand ils sont les plus forts. » Ainsi, partout, le premier dogme a été celui de la haine. Lorsque le roi de Prusse entra pour la première fois dans la Silésie, une bourgade protestante, jalouse d'un village catholique, vint demander humblement au roi la permission de tuer dans ce village. Le roi répondit aux députés : Si ce village venait me demander la permission de vous égorger, trouveriez-vous bon que je la lui accordasse ? Ô gracieuse majesté, répliquèrent les députés, cela est bien différent. Nous sommes la véritable Église. Au remède contre la rage des âmes. La rage du préjugé qui nous porte à croire coupables tous ceux qui ne sont pas de notre avis, la rage de la superstition, de la persécution, de l'inquisition, est une maladie épidémique qui a régné en divers temps comme la peste. Voici les préservatifs reconnus pour les plus salutaires. Faites-vous rendre compte d'abord des lois romaines jusqu'à Théodose. Vous ne trouverez pas un seul édit pour mettre à la torture ou crucifier ou rouer ceux qui ne sont accusés que de penser différemment de vous et qui ne troublent point la société par des actions de désobéissance et par des insultes au culte public autorisées par les lois civiles. Cette première réflexion adoucira un peu les symptômes de la rage. Rassemblez plusieurs passages de Cicéron et commencez par celui-ci. Si vous laissez entrer chez vous la superstition, elle vous poursuivra partout, elle ne vous laissera point de relâche. Cette précaution sera très utile contre la maladie qu'il faut traiter. N'oubliez pas Sénèque, qui, dans sa 95e épître, s'exprime ainsi. Voulez-vous avoir Dieu propice? Soyez juste. On l'honore assez quand on l'imite. Quand vous aurez choisi de quoi faire une provision de ces remèdes antiques, passez ensuite au bon évêque Synésius, qui a dit à ceux qui voulaient le consacrer, je vous avertis que je ne veux ni tromper, ni forcer la conscience de personne. Je souffrirai que chacun demeure paisiblement dans son opinion, et je demeurerai dans les miennes. Je n'enseignerai rien de ce que je ne crois pas. Si vous voulez me consacrer à ces conditions, j'y consens. Sinon, je renonce à l'évêché. Descendez au moderne. Prenez des préservatifs dans l'archevêque Tillotson, le plus sage et le plus éloquent prédicateur de l'Europe. Toutes les sectes, dit-il, s'échauffent avec d'autant plus de fureur que les objets de leur emportement sont moins raisonnables. Il vaudrait mieux, dit-il ailleurs, être sans révélation. Il vaudrait mieux s'abandonner aux sages principes de la nature qui inspirent la douceur, l'humanité, la paix et qui font le bonheur de la société, que d'être guidé par une religion qui porte dans les âmes une fureur si sauvage. Remarquez bien ces paroles mémorables. Elles ne veulent pas dire que la raison humaine est préférable à la révélation. Elles signifient que s'il n'y avait point de milieu entre la raison et l'abus d'une révélation qui ne ferait que des fanatiques, il vaudrait 100 fois mieux se livrer à la nature qu'à une religion tyrannique et persécutrice. Je vous recommande encore ces vers que j'ai lus dans un ouvrage qui est à la fois très pieux et très philosophique. À la religion discrètement fidèle, sois doux, compatissant, sage, indulgent, comme elle. Et sans noyer autrui, songe à gagner le port. La clémence a raison et la colère a tort. Dans nos jours passagers, de peine, de misère, enfants du même Dieu, vivons au moins en frères. Aidons-nous l'un et l'autre à porter nos fardeaux. Nous marchons tous courbés sous le poids de nos maux. 1000 ennemis cruels assiègent notre vie, toujours par nous maudites et toujours si chéries. Notre cœur égaré, sans guide et sans appui, est brûlé de désir ou glacé par l'ennui. Nul de nous n'a vécu sans connaître les larmes. De la société, les secourables charmes consolent nos douleurs au moins quelques instants. Remède encore trop faible à des maux si constants. Ah, n'empoisonnons pas la douceur qui nous reste. Je crois voir des forçats dans un cachot funeste se pouvant secourir l'un sur l'autre acharnés, combattre avec les fers dont ils sont enchaînés. Quand vous aurez nourri votre esprit de 100 passages pareils, faites encore mieux. Mettez-vous au régime de penser par vous-même. Examinez ce qui vous revient de vouloir dominer sur les consciences. Vous serez suivi de quelques imbéciles et vous serez en horreur à tous les esprits raisonnables. Si vous êtes persuadé, vous êtes un tyran d'exiger que les autres soient persuadés comme vous. Si vous ne croyez pas, vous êtes un monstre d'enseigner ce que vous méprisez et de persécuter ceux même dont vous partagez les opinions. En un mot, la tolérance mutuelle est l'unique remède aux erreurs qui pervertissent l'esprit des hommes d'un bout de l'univers à l'autre. Le genre humain est semblable à une foule de voyageurs qui se trouvent dans un vaisseau. Ceux-là sont à la poupe, d'autres à la proue, plusieurs à fond de cale et dans la sentine. Le vaisseau fait haut de tous côtés, l'orage est continuel. Misérables passagers, ils seront tous engloutis. Faut-il qu'au lieu de nous porter les uns aux autres les secours nécessaires qui adouciraient le passage, nous rendions notre navigation affreuse? Mais celui-ci est nestorien, cet autre est juif. En voilà un qui croit à un picard, un autre à un natif d'Ileb. Ici est une famille digne école, là sont des musulmans, à 4 pas. Voilà des anabaptistes. Et qu'importe leur secte, il faut qu'ils travaillent tous à calfater ce vaisseau et que chacun, en assurant la vie de son voisin pour quelques moments, assure la sienne. Mais ils se querellent et ils périssent. Conclusion. Après avoir montré au lecteur cette chaîne de superstition qui s'étend de siècle en siècle jusqu'à nos jours, nous implorons les âmes nobles et compatissantes, faites pour servir d'exemple aux autres. Nous les conjurons de daigner se mettre à la tête de ceux qui ont entrepris de justifier et de secourir la famille des Sirvins. L'aventure effroyable des Calas, à laquelle l'Europe s'est intéressée, n'aura point épuisé la compassion des cœurs sensibles. Et puisque la plus horrible injustice s'est multipliée, la pitié vertueuse redoublera. On doit dire, à la louange de notre siècle et à celle de la philosophie, que les Calas n'ont reçu les secours qui ont réparé leur malheur que des personnes instruites et sages qui foulent le fanatisme à leurs pieds. Pas un de ceux qu'on appelle dévots, je le dis avec douleur, n'a essuyé leurs larmes ni rempli leurs bourses. Il n'y a que des esprits raisonnables qui pensent noblement, des têtes couronnées, des âmes dignes de leur rang ont donné à cette occasion de grands exemples. Leurs noms seront marqués dans les fastes de la philosophie qui consiste dans l'horreur de la superstition et dans cette charité universelle que Cicéron recommande. Caritas humani generis. Charité dont la théologie s'est appropriée le nom, comme s'il n'appartient qu'à elle, mais dont elle a proscrit trop souvent la réalité. Charité, amour du genre humain, vertu inconnue aux trompeurs, aux pédants qui argumentent, aux fanatiques qui persécutent. Fin de la vie au public.